بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد. Le messager de Allah صلى الله عليه وسلم a dit ce qui signifie, donc il a dit من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين, c'est-à-dire celui pour qui Allah veut le bien lui facilite l'apprentissage de la religion. Donc on rappelle de mettre la bonne intention par recherche de l'agrément de Dieu. Donc, on parlera du chapitre des transactions. Donc, il est du devoir de tout musulman responsable de ne pas s'engager dans une affaire quelconque avant de savoir ce que Allah Ta'ala y a rendu licite et illicite. Allah Subhanahu, nous ayant ordonné la soumission, c'est-à-dire nous ayant chargé de respecter certaines choses, il est indispensable d'observer ce qui nous a ordonné. Donc le musulman responsable, c'est celui qui va rendre des comptes, à savoir pubère, saint d'esprit, qui a entendu la base de l'appel à l'islam. Donc c'est les conditions de la responsabilité. Donc il doit appliquer tous les devoirs, éviter tous les interdits. Donc ça, c'est un remerciement obligatoire à Dieu, qui nous a accordé le fait d'exister, de respirer, des bienfaits qu'on ne peut pas dénombrer. Et donc, parmi ces choses-là, donc, il y a les transactions. Donc, dans l'islam, il y a des règles, des transactions, louer, vendre, acheter, mariage, divorce, c'est regroupé dans le chapitre des transactions. Donc, avant de s'engager, il apprend ce qui est valable, ce qui n'est pas valable. Donc, Allah subhanahu, donc subhanahu, ça veut dire il est exempté de toute imperfection, nous a ordonné la soumission, c'est-à-dire de respecter certaines choses, donc y compris dans ces relations, ces transactions. Donc il est indispensable d'observer ce qui nous a ordonné. L'esclave doit obéir à son créateur en accomplissant ce qu'il lui a ordonné, en évitant ce qu'il lui a interdit. Car Allah mérite d'être obéi. Dans tout ce que Dieu ordonne et interdit, il y a une sagesse, bien sûr. Qu'on connaisse ou non, il y a une sagesse. Cependant, nous connaissons certaines sagesses et nous ignorons certaines autres. Et ceci est une épreuve de la part de Allah pour ses esclaves. Est une mise à l'épreuve. Dieu sait bien sûr toute chose, mais pour manifester qui obéit, qui n'obéit pas. Ainsi, celui qui se soumet à Allah en toute chose, c'est celui-là, l'esclave obéissant et qui se hâte dans l'obéissance. Et celui qui n'est pas ainsi n'a pas une complète obéissance. Donc Allah Ta'ala dit dans le Coran honoré, « وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا » Ce qui signifie « Allah a rendu licite la vente » et a rendu illicite le gain usuraire. Sourate Al-Baqarah. Donc la vente c'est licite chez tous les prophètes. Donc on peut bien sûr vendre en islam le prix qu'on veut. Le prophète alayhi salam n'a pas fixé de pourcentage de gain. Ce qui est interdit c'est de mentir ou de décrire la marchandise mensongèrement. Mais proposer le prix qu'on veut, c'est permis. Et au contraire, il n'est pas permis d'interdire cela ou de dire que c'est du vol ou des choses comme ça. Ce qui est interdit, c'est de, par exemple, de faire croire d'une manière que c'est le prix du marché. Comme s'il lui dit, tu trouveras pas moins cher ou si je suis le moins cher, alors que il sait que le prix courant, c'est moins cher que ça. Donc, c'est mentir, en fait. Mais sinon, on peut vendre le prix qu'on veut. Donc pour gagner de l'argent, Dieu a autorisé la vente. T'achètes à tel prix, ou on t'a offert, ou ça t'appartient, t'as hérité, tu peux le vendre au prix que tu veux. Ça t'appartient. Après, la personne, elle fait le choix, si ça l'intéresse, elle prend, si cela ne l'intéresse pas, elle va voir un autre. Bon, le prophète, alayhi salatu wassalam, nous a donné des bonnes manières. C'est-à-dire d'être facile, de vendre à un prix abordable, c'est un bon comportement. Et aussi de ne pas marchander, c'est un bon comportement dans le, c'est-à-dire de ne pas insister sur la baisse du prix. Aussi, c'est un bon comportement que le prophète nous a enseigné. C'est-à-dire tu dis, je propose de l'acheter pourtant. Voilà. S'il veut pas, tu t'en vas. Et si toi tu veux pas, tu t'en vas. Mais de insister pour faire baisser, c'est quelque chose qui est pas bien, mais c'est permis quand même. C'est pas interdit, mais c'est pas un bon comportement. Donc l'islam incite au bon comportement, vendre, acheter, prêter, récupérer sa dette, tout ça de bonne manière. Par contre, donc là, pour gagner de l'argent, c'est dans la vente. Mais pour le prêt, c'est pour s'entraider. On ne peut pas gagner l'argent sur le prêt. Dans le sens, on ne peut pas poser comme condition de gagner tant sur le prêt. Et ça, c'est le cas usuraire, riba, qui est un grand péché. Donc, dans la religion, c'est il le cite dans la gravité, dans le quatrième position. Le plus grave des péchés, c'est la mécréance, de toutes ses sortes, que ce soit shirk ou autre. Dans la mécréance elle-même, bien sûr, il y a des sortes plus graves que d'autres. Le plus grave, c'est nier l'existence de Dieu. Se moquer du prophète, c'est une mécréance aussi. C'est une autre sorte. Donc la mécréance de toutes ses sortes, c'est le plus grave des péchés. Ça fait mériter le châtiment à l'éternité, en enfer, pour celui qui meurt sur cet état. Après la mécréance, c'est tuer l'âme que Allah a interdit de tuer. Le troisième, c'est la fornication. Avoir une relation conjugale sans être marié avec une femme qui ne lui est pas licite. Donc, le quatrième, c'est délaisser la prière et le gain usuraire. Ils ont dit les deux. Dans cette position, délaisser la prière et le gain usuraire. Donc c'est un grand péché. Mais ça reste, ce n'est pas plus grave que la fornication, parce qu'il y en a, il cite un hadith qui n'est pas confirmé, et qui prétend que un seul dirham de gain usuraire, c'est plus grave que 36 fornications. Ça, c'est un hadith qui n'est pas confirmé, et ça contredit ce qui est connu chez les musulmans, que la fornication, c'est plus grave que le gain usuraire. Donc, on répète, le plus grave, c'est la mécréance. Comme dans le hadith, un compagnon, il est venu voir le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit, ayyudhunubi a'zam. Il lui a dit, c'est quoi le plus grave des péchés? Il a dit, an taj'alillahi niddan wa huwa khalaqak. C'est que tu attribues à Dieu un associé alors qu'il t'a créé. Donc là, il donne des exemples, le prophète. Donc c'est un exemple, ça. Nier l'existence de Dieu, c'est encore plus grave. Donc c'est un exemple. Renier ce qui est connu d'évidence dans la religion, comme le caractère obligatoire de la prière. Pour celui qui sait que c'est ainsi chez les musulmans, il renie, c'est un démenti, c'est de la mécréance. Donc toutes les sortes de mécréances sont dans la catégorie de plus graves. Après, il a dit, dans le hadith, il a dit, thumma ay. Ensuite, c'est quoi? Il a dit, tu tues ton fils de crainte qu'il ne mange avec toi, ou de crainte de la pauvreté. Donc, il a donné un exemple, c'est tuer l'âme que Allah a interdit de tuer. Que ce soit le fils ou autre. C'est le plus grave en deuxième position. Ensuite, le compagnon, il a continué, il a dit, thumma ay, ensuite, c'est quoi? Il a dit, que tu fasses la fornication avec la femme du voisin. C'est un exemple. Donc c'est le plus grave. Donc dans la troisième position, la fornication. Donc le gain usuraire n'est pas plus grave que la fornication. C'est connu chez les musulmans. Donc on ne dit pas le contraire. Après, les savants, en se basant sur des preuves religieuses, ils ont dit, c'est délaisser la prière et le gain usuraire, qui est tout prêt ou il est conditionné à l'intérêt pour l'un ou l'autre des contractants. Tout prêt ou il est conditionné à l'intérêt pour l'un ou l'autre des contractants. Que ce soit un intérêt dont un surplus dans la dette, comme de dire je te prête 100 à condition que tu me rendes 150, ou un autre intérêt, comme s'il dit je te prête à condition que j'utilise ta voiture gratuitement le temps que tu me rembourses, ou le à condition que je te fasse travailler pour un salaire moins cher que le salaire courant à cause du prêt, ou à condition que j'utilise ta maison, j'habite ta maison gratuitement, etc. Poser tout prêt, comme dans le hadith, kullu qardin jarra manfa'a fa riba, tout prêt où les conditionner un intérêt pour donc l'un ou l'autre des contractants est un gain usuraire. S'il pose cela comme condition, mais s'il lui offre de bon cœur, ça, il n'y a pas de problème. Il lui prête 100, il lui dit, allez, voilà tes 100 et que ça, 50 euros cadeau, par exemple. Donc, Allah a rendu illicite la vente et a rendu illicite le gain usuraire, al-riba. Lorsque Allah tabaraka wa ta'ala a mentionné dans son livre la vente, il l'a déterminé par l'article défini al, en français la. Wa halallahu al-bay'a. Il y a al-tarif, c'est-à-dire l'article défini. C'est-à-dire qu'il nous indique que la vente qu'il a rendue licite, c'est la vente qui est connue et définie dans la loi de l'islam comme étant licite. Il est alors un devoir pour celui qui veut s'adonner à la vente et à l'achat de connaître ce que Allah y a rendu licite. Donc il faut apprendre ces règles. Par ailleurs, le prophète, donc comme on l'a dit, n'a pas fixé de marge pour faire des bénéfices dans la vente. Il est permis même de vendre 10 fois plus que le prix d'achat. Il est faux de limiter le bénéfice au double du prix d'achat. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit innama al-bay'u 'an taradin, ce qui signifie certes la vente est selon un consentement mutuel, rapporté par Ibn Majah. Donc la vente qui est permise, donc il faut, c'est un consentement mutuel, comme j'ai dit tout à l'heure. Il propose son prix, l'autre il veut acheter ou non. Donc, comme il veut. Donc, la vente qui est permise, c'est celle dans laquelle les deux contreparties, c'est-à-dire la marchandise vendue et sa contrepartie, sont toutes deux permises et illicites selon la loi de Dieu. Il n'est donc pas permis de vendre ce qui est interdit par accord de tous les savants sunnites. Donc, il faut quelque chose qui est permise. Donc, ce n'est pas valable de vendre une impureté. Donc, toutefois, ce qui est sujet à divergence, quant à son caractère permis, il est permis de le vendre selon le savant Mujtahid, donc savant comme chef et Malik, Abu Hanifa, c'est le savant apte à déduire des lois à partir du Coran et du Hadith. Donc c'est permis de le vendre, cette chose sur laquelle il y a divergence, selon le savant Mujtahid qui le considère comme étant permis. Même si c'est interdit selon d'autres savants Mujtahid. Donc on va donner un exemple. Il n'est donc pas permis de vendre ce qui est impur, najis en soi, comme le sang, le porc ou encore la viande d'un animal mort qui n'est pas licite à la consommation, et ses autres parties telles que les os, les poils et autres que cela. Cependant, il est permis, selon certains savants, les hanafites en l'occurrence, de vendre les os du cadavre, tels que les cornes de l'éléphant, car ceci n'est pas impur, najis selon eux. Donc voilà un exemple. Donc, parmi les conditions de validité de la vente, que la contrepartie et ce qui est vendu soient tous deux purs, c'est-à-dire au contraire d'impur. Le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Inna Allaha idha harrama ala qawmin akla shay'in harrama alayhim thamana » Ce qui signifie, si Allah a interdit à un peuple de consommer une chose, il a interdit de consommer son prix. Sa contrepartie, en fait. Rapporté par Abu Daoud. Ainsi, il est interdit de vendre ce qui est interdit à la consommation. Vendre des boissons alcoolisées, la viande qui n'est pas égorgée. Ça, c'est pas permis, ça rentre pas dans sa position, le prix. Donc, alors, parmi les conditions, que la vente ne soit pas temporaire ou conditionnée. Qu'elle ne soit pas temporaire ou conditionnée. Donc, ce n'est pas valable une vente temporaire, comme ils font, je te vends pour 99 ans. On peut pas mélanger vente et location, en fait. Ce n'est pas valable, en fait, en islam, quand on vend, ça y est. Les droits de la chose sont transférés à celui qui l'a acheté. Donc, bien sûr, et ça implique qu'en islam, qu'il peut faire ce qu'il veut, le licite. Quand il a acheté, il peut après la revendre, il peut la copier, faire la même chose. En fait aussi, en islam, ça n'existe pas. Je te vends, mais je me réserve le droit de reproduction, de copie. Ça n'existe pas en islam. Bon, même chez les musulmans, ça n'existait pas. Donc, ouais. Donc, chez les musulmans, ça... Même chez les non-musulmans, en fait, ça n'existait pas. Ça a été récemment introduit. Mais, en islam, ça n'existait pas. Que je garde l'idée ou je possède l'idée, ça n'existe pas, en fait. En islam, si tu veux pas que les gens te copient, tu montres pas, tout simplement. Mais tu montres une chose, n'importe qui peut copier. Même celui qui l'a pas acheté. Donc si quelqu'un il voit la chose, il peut la copier. En islam, en fait c'est plus simple. En islam c'est très simple. C'est voilà, les idées, bon, ils peuvent pas se vendre. Ça s'approprie, on s'approprie pas l'idée. Dans le sens que on peut pas dire c'est réservé pour moi et tu veux pas la copier sinon t'es puni, etc. Donc ça existe pas en islam. Dans tous les domaines. Tant que c'est licite, tu peux copier. Que ce soit les sujets de livres de religion ou de sciences mondaines. Et c'est connu, le Bukhari n'a jamais dit, les manuscrits hein, des anciens, aucun livre ancien n'est marqué, attention, droit de reproduction, de copie réservé à l'auteur ou ses ayants droit, des choses comme ça. Donc les gens, dans leur époque, ils se fatiguaient, les savants... Pour faire de l'encre, ça se fabrique manuellement. Les plumes aussi, ça se fabrique manuellement. Il faut les tailler. Ils se fatiguaient, et puis les gens, puis ils prenaient leurs livres, ils faisaient du commerce avec. Ils les copiaient, et ça se vendait. Ils demandaient jamais un pourcentage ou des choses comme ça. Donc ça n'existe pas. On voit bien que les ignorants... y compris des gens qui ont le titre de docteur en hadith, quand ils font des livres, ils mettent attention copie interdite, sauf autorisation expresse de l'auteur, de ses ayants droit, etc. Donc en islam, ça n'existe pas. et s'est permis de copier. Donc, que ce soit une œuvre intellectuelle ou une œuvre, un produit industriel. Donc, quelqu'un qui achète le livre en islam, ben, il peut faire exactement le même et le revendre. Islamiquement, c'est ça. Maintenant, on n'encourage pas les gens à faire des choses dans lesquelles ils peuvent être subir une nuisance, on va dire. Donc, parce que dans plusieurs pays, bien sûr, si tu fais ça, ben, tu peux t'exposer à une emprisonnement même. Mais on dit que t'as pas de péché, en fait, c'est ça. Voilà, c'est ça que ne pas mélanger. Voilà. Et donc, voilà, que ce soit pas conditionné non plus la vente. Ce n'est pas valable de dire, je te vends à condition, en fait, la vente est confirmée que s'il y a une condition. Il dit, je t'ai vendu ça, mais à condition qu'il y ait telle condition qui se réalise, ce n'est pas valable. C'est sans condition, la vente. Ben, tu veux le vendre, ça y est, que ce ne soit pas quelque chose d'inexistant. Comme une construction qui n'est pas encore, qui n'a pas encore été réalisée. Voilà. Bon. Il y en a, certains ils font vendre sur plan. Bon, en islam, c'est pas valable d'acheter quelque chose qui n'est pas existant encore. De cette manière-là, comme ça, c'est pas valable de dire, je te vends ce. Il faut qu'il y ait tous les murs qui entourent la chose la pièce qu'on veut acheter, par exemple. Donc, quelque chose qui n'a pas encore été construite. Il y a des manières, en fait, c'est de vendre une parcelle de terre, hein, et de l'échanger après, de vendre un pourcentage du terrain, et après, s'il veut avoir de l'argent pour construire, il vend un pourcentage du terrain. En fait, la manière, c'est, quelqu'un, il a le terrain, et puis, il veut avoir de l'argent pour faire une construction. Il peut pas vendre comme ça des appartements sur plan. Mais, il peut vendre à des gens un pourcentage non précisé de la terre. Il dit, ben, je te vends un dixième de ce terrain. Et sans que ce préciser lequel, comme ça, il a un droit sur le terrain, et ce droit-là, il ne le cède que, il le change après, quand la construction a été faite, contre un appartement. Donc, il peut faire, vendre. Lui, il a des appartements, il valent 100 000, par exemple. Pour ne pas tomber dans ce qui est pas valable, il dit, je te vends. Donc, s'il a, par exemple, c'est prévu 50 appartements, et il peut vendre un 50e de la terre. Donc, chaque client lui vend un 50e de la terre pour le prix de l'appartement. Parce qu'il est libre. Et après, ils ont un droit qu'ils ne veulent pas leur enlever sur le terrain. Et là, comme ça, ils ont entre guillemets une garantie. Et après, quand il a fini la construction, et chacun il peut récupérer l'appartement en contrepartie de son pourcentage de la terre. Donc, alors que ce ne soit pas temporaire ni conditionné, que ce ne soit pas quelque chose d'inexistant, comme construction qui n'a pas encore été réalisée, que les deux contractants soient pubères et sains d'esprit. Donc que les deux contractants soient pubères et sains d'esprit. Donc ainsi la vente par le fou ou l'enfant n'est pas valable. La vente de son bien à autrui n'est pas valable et n'est pas valable à quelqu'un de responsable de lui vendre son bien. Alors, toutefois, certains imams ont rendu permise la vente effectuée par l'enfant ayant atteint la distinction, avec l'autorisation de son tuteur. En tout cas, chez Ahmad, il y a ça. Et peut-être l'avis des Malikites, parce qu'ils ont plusieurs avis. Donc, l'enfant ayant la distinction, ayant avec l'autorisation de son tuteur. En lui précisant ce qu'il achète concernant l'achat. Son tuteur lui précise. En précisant ce qu'il achète. Si pour l'achat. La vente ou l'achat par celui qui n'est pas responsable n'est pas valable non plus. Tel que le fou. De même, n'est pas valable la vente ou l'achat de celui qui est sous la contrainte. La contrainte, c'est d'être menacé de ce qui est de l'ordre de la mort ou de l'amputation d'un de ses membres. Celui qui est contraint ainsi n'est pas responsable du fait qu'il a été contraint. Comme cela est compris du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Inna Allah tajawaza li an ummati al-khata'a wa-nisyana wa mastukrihu alayhi. Ce qui signifie, certes, Allah n'a pas rendu ma communauté responsable pour ce qu'elle fait par erreur, oubli et par contrainte, rapporté par Tirmidhi. Donc, tout comme la vente par celui qui est contraint est interdite, l'achat est également interdit, sauf si cette contrainte vient d'un droit légal. Selon la loi de l'islam, comme si le juge le contraint de vendre pour des biens pour régler sa dette. Là, c'est une contrainte légale. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit innamal bay'u an taradin. Ce qui signifie la vente se fait par l'accord de deux parties. C'est un consentement mutuel, rapporté par Ibn Hibban et Ibn Majah. Donc on peut remarquer qu'on peut vendre un bien présent, visible par les deux contractants, ou bien ou un bien décrit. Il s'agit de la vente d'une chose bien décrite qui devient à la charge de celui qui la vend, même s'il ne possède pas cette chose sur le moment. On peut aussi vendre un profit à vie, comme le droit de passage sur sa terre, ou le droit de construire au-dessus de sa maison. Donc ces manières-là, ou les deux contractants y voient le bien, c'est un bien présent, ou bien un bien décrit, il s'agit de la vente d'une chose bien décrite qui devient à la charge de celui qui la vend, même s'il ne possède pas cette chose sur le moment. On peut aussi vendre un profit à vie, comme le droit de passage sur sa terre ou le droit de construire au-dessus de sa maison. Donc, dès lors que Allah tabaraka wa ta'ala a mentionné son jugement de rendre licite la vente et d'interdire le gain usuraire, al-riba, nous avons su que la voie pour éviter l'interdit et pour être en accord avec les jugements de la loi relatifs à l'achat, à la vente et ce qui s'ensuit, c'est d'apprendre la jurisprudence de sa religion. Donc celui qui n'apprend pas ce qui s'y rattache comme jugement de la loi, on craint pour lui qu'il ne tombe dans le gain usuraire qui fait partie des plus grands péchés. Ainsi, dans la parole du messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, التاجر الصدوق يحشر يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء. Ce qui signifie le commerçant véridique sera rassemblé au jour du jugement avec les prophètes, les saints du plus haut degré et des martyrs. Rapporté par Tirmidhi qui l'a jugé sûr, il y a une annonce de bonne nouvelle pour celui qui pratique le commerce et fait preuve de piété à l'égard de Allah en évitant ce que Allah Ta'ala a interdit en tant que différentes sortes de commerces interdits, de trahison, de duperie, de fraude. Celui qui s'est attaché à être véridique dans la description de sa marchandise et dans l'annonce des prix, celui-là aura l'annonce de bonnes nouvelles qu'il fait partie de ceux pour qui il n'y a pas de crainte, qui n'ont pas à être chagrinés. Il nous fait savoir par là que celui qui n'est pas ainsi méritera le châtiment douloureux. Donc pour le reste des contrats, comme la location en général et la location de service, al-ijara, le mandat d'une tierce personne pour qu'elle utilise un capital dans le commerce, en vue du partage des bénéfices, al-qirab, l'hypothèque, al-rahan, la délégation, al-wakala, le dépôt, al-wadi'a, le prêt pour simple utilisation, al-ariya, l'association des biens, al-sharika, et l'entretien d'arbres fruitiers, irrigation, désherbage, etc. avec partage de la récolte, al-musaqat, il est également indispensable d'en observer les conditions de validité et les piliers propres à chacun. C'est-à-dire que les contrats cités ont le jugement de la vente concernant le devoir de connaître le détail de leur jugement, selon la loi, pour celui qui veut les pratiquer. Donc cela, ils ont besoin d'être aussi vus. Donc, alors, un exemple, aussi de choses sur lesquelles les gens se posent des questions, parce que les gens appellent Murabaha, par exemple. Bon, il faut voir comment ils le font exactement, mais de base, en islam, si on demande à une personne d'acheter une maison, ensuite de nous la vendre plus cher par mensualité, c'est permis en fait. En fait, en islam, même si on l'a pas encore donné, c'est valable, ça lui appartient à la maison. S'il dit je te vends cette maison pourtant, ça lui appartient, mais il doit payer, donc il reste à sa charge comme une dette à payer. Bon, en islam, on peut vendre, par exemple, tu payes la totalité de la somme, c'est ton, je te la vends. Si tu veux par mensualité, je te vends plus cher. C'est permis en islam tant qu'il précise ce qu'il veut dès le début. Donc même si c'est beaucoup plus cher par mensualité, c'est valable. Ce qui n'est pas valable, c'est de laisser comme ça ouvert et qui prend la chose et puis soi-disant il verra. Donc il faut le préciser dès le début. Tu achètes pourtant, tu payes tout ou par mensualité pourtant. Et ce qui n'est pas valable aussi, c'est de conditionner des majorations. Si tu retardes, tu auras une majoration, ça c'est gain usuraire. Donc ça c'est interdit. Par contre, il peut fixer un prix plus cher. Donc après, il y a les autres contrats de location. Contrats location et autres, ils ont des conditions aussi. Donc, al-ijara, la location. Al-ijara, c'est-à-dire la location. Il y a dans la location ce qui est permis, ce qui est invalide. La location correcte étant celle qui remplit les conditions de validité qui sont donner possession d'un profit permis moyennant une contrepartie. Comme de dire, je te loue pour labourer cette terre pour telle rémunération. Donc il faut que le profit soit permis. Moyennant une contrepartie. Donner possession d'un profit permis, moyennant une contrepartie. Comme de dire je te loue pour labourer cette terre, pour peindre ce mur, pour telle rémunération. Donc il faut préciser le travail. Et ou le travail ou la durée, un des deux. On va dire, il faut préciser la tâche, on va dire, ou la durée. Ce n'est pas valable de réunir les deux, de dire, je te loue, tu vas labourer cette terre en 2 heures. Parce qu'il peut finir avant, il peut finir après. Ou il peut dire, de dire je te loue pour labourer cette terre, il précise, puis il va finir 1h50, 1h, mais il a fait la tâche requise, à savoir labourer cette terre précise. Ou de dire je te loue, tu laboures la terre pendant 1 heure. Et il travaille telle surface ou autre selon voilà son travail. Donc un travail bien sûr habituel. Comme on l'a dit, il dit par exemple je te loue pour labourer cette terre pour telle rémunération. Donc un profit permis. Ou aussi, on va voir, il peut dire à ta charge le labour de cette terre. Dans ce cas, il doit payer avant la séparation, parce que c'est à sa charge de labourer. Quand c'est à sa charge, il peut le faire lui-même ou ramener des travailleurs. Mais quand il est loué lui-même, il ne peut pas ramener des travailleurs, il doit le faire lui-même. Ça s'appelle Ijarat Wa'in. Ijarat Wa'imma, Ijarat Ain. Ijarat Ain, ça veut dire lui-même il est loué, il faut que pour que le contrat soit valable, lui-même il fasse le travail. Dans Ijarat Wa'imma, quand c'est à charge, il peut ramener des gens. Il faut un autre contrat avec d'autres gens, on va dire il va sous-traiter le travail à d'autres. Voilà. Mais dans ce cas, la rémunération doit être payée avant la séparation. Donc ça doit être donné avant la séparation. Voilà. Mais quand il loue lui-même, c'est-à-dire Ijarat Ta'in, il peut payer après. Mais elle est précisée, bien sûr, le salaire est précisé, mais il peut le donner après parce que c'est lui qui doit faire le travail. Donc il peut le payer après. Ainsi, il n'est pas permis de louer les services de quelqu'un pour réaliser un profit interdit selon la loi de l'islam. Il ne va pas le louer, par exemple, pour faire quelque chose qui est interdit. Donc, ce n'est pas valable. Donc, il faut quelque chose de un profit qui soit permis. Donc, celui qui a été loué pour un profit qui n'est pas permis ne devient pas propriétaire de ce qu'il a pris à titre de salaire. Ce qu'il a pris à titre de salaire, ça ne lui appartient pas. Donc, s'il a été loué pour un profit qui n'est pas permis, comme je sais pas, voilà, comme de faire des instruments qui sont pas permis, pour jouer d'un instrument qui n'est pas permis, des instruments de avant et à cordes. Donc, islamiquement, ça lui appartient pas, le salaire, s'il lui a été donné à titre de salaire. Mais si ça a été donné à titre de cadeau, donc s'il a pris, ce n'est pas permis qu'il prenne ce salaire qui lui a été donné pour faire ce qui est interdit, bien sûr. C'est au contraire un devoir pour lui de le rendre à celui qui le lui a donné. Mais si on lui a donné à titre de don, comme ça, il peut prendre. Il a fait comme certains, il fait un truc, puis après on lui offre l'argent. Donc, il faut, selon les mêmes chefs, prononcer une formule. Et que la rémunération soit déterminée et non pas inconnue comme on l'a vu. Ainsi, il n'est pas valable de dire je te loue pour labourer, on verra après combien je te donne. Ou monte, je t'emmène dans un lieu, puis tu verras le prix. Ce n'est pas valable. Et qu'elle soit conditionnée par la durée ou le travail, comme on a vu. Et il n'est pas valable que conditionnée par la durée ou le travail, entre guillemets, la tâche. Et il n'est pas valable que la location soit conditionnée par le travail et la durée en même temps. Ainsi, il n'est pas valable de dire je te loue pour labourer cette terre en 6 heures. Soit il dit je te loue pour labourer cette terre, soit il dit je te loue pour faire 6 heures de labour. Pendant 6 heures, il va labourer. Et comme on a dit, que le prix de la location, la rémunération, que le prix de l'allocation, donc la rémunération, soit remis avant la séparation des contractants en cas de location de service à charge. Ijaratu dhimma. La location à charge est celle par laquelle on vise la réalisation du profit, c'est-à-dire que la personne dont on loue les services réalise le profit par lui-même ou par autre qu'elle. C'est à sa charge. Dans ce cas, il faut payer avant la séparation. Donc, remarque aussi en islam, si on loue, donc par exemple un local, donc c'est précisé, par exemple pour un an. Après le un an, ça y est, on peut pas exiger de rester. C'est, il faut que le propriétaire renouvelle selon ses souhaits. Augmenter ou il veut plus poursuivre, on peut pas lui imposer, le forcer. Dans ce cas, c'est un péché en islam. Si on reste malgré cela, on est dans le péché. On peut pas lui imposer islamiquement de dire non, moi je veux pas l'augmentation. S'ils sont mis d'accord sur un an, après un an, il peut pas rester s'il veut plus de lui ou il veut augmenter le loyer. Donc ça, c'est un détail. Et aussi, donc il peut pas lui dire non, il faut que tu me donnes une indemnité pour quitter ce local où il y a des pas de porte ou un bail. Le propriétaire du mur, c'est à lui, c'est tout. Si, donc bien sûr, s'ils sont mis d'accord sur un an, il peut pas se désister avant un an. Le propriétaire de dire non, mais j'ai trouvé un meilleur locataire, tu sors là. Non, c'est un contrat irrévocable. On dit aqd lazim, irrévocable. Même dans location de service, s'ils sont mis un an, il peut pas lui dire avant un an, allez, tu sors. Et il peut pas lui, l'autre aussi dire bon je reviens, je veux plus travailler avant le un an sur lequel ils sont engagés ou le nombre de mois par exemple. Si vraiment ils veulent arrêter, c'est par consentement, il dit je te pardonne le travail, je te pardonne le salaire. Mais il faut finir, c'est un contrat irrévocable en fait. De même pour louer une maison ou un local, si le un an s'est écoulé, il peut pas lui dire il faut que je reste. C'est un péché. Si l'autre il veut augmenter le loyer, il peut. Si le un an il est passé sur lequel ils se sont mis d'accord. Donc aussi, par exemple, il a loué un local pour un an. Il l'a utilisé. Enfin, il lui reste. En fait, en islam, il peut, comme il a le profit pour de ce local, il peut louer son profit pour la durée qui lui reste. Ce que les gens appellent sous-louer. Islamiquement, il peut louer ce local-là, il l'a loué pour un an, il peut le louer, par exemple, pour 6 mois, mais pour la durée qui lui reste, en fait. Parce que il a loué, il a la possession du profit pendant ce temps-là. Donc il peut le louer. En islam aussi, donc, en islam, il y a, quelqu'un, il peut pas imposer, en fait, sur un salaire, sur quelque chose qui lui appartient pas. En islam, en fait, ça n'existe pas. En fait, le gouverneur, islamiquement, il ne peut pas dire aux gens, payez-moi la place de marché ou tel emplacement pour les voitures. Bon, le prophète l'appelait max tac. Prélever des taxes et des impôts, c'est un grand péché en fait. Donc en islam, il peut pas faire ça, ce n'est pas valable. Bon, bien sûr, dans l'histoire, il y en a, ils ont bien géré des régions entières, hein, comme Omar ibn Abdelaziz, sans imposer ce genre de choses aux gens. Ils ont réussi même à enlever la pauvreté. En islam, il peut imposer le gouverneur aux riches quand il y a une nécessité, pas tout le temps. Quand il y a une nécessité, comme il y a beaucoup de pauvres ou des choses comme ça, il peut imposer aux riches de donner,
même s'il ne leur laisse que la dépense d'une année. Mais islamiquement, il ne peut pas imposer qu'ils payent ça ou celui, ou des gens ils prennent des choses sur qu'on ne peut pas réserver. En islam, on ne peut pas réserver par exemple les bords de mer, bord des rivières, et les louer. Il faut laisser un accès aux gens. Si quelqu'un veut construire par exemple un hôtel, il faut laisser un emplacement normal pour les gens et un emplacement pour leur voiture. C'est-à-dire accès bien sûr libre, bien évidemment. On ne peut pas réserver, bon, comme ils font, hein, même les pays musulmans. Donc on voit qu'ils font des hôtels et puis ils réservent des plages. Donc ça, c'est un grand péché en islam. En islam aussi, tellement c'est facile que la terre qui n'appartient à personne, on peut se l'approprier en la labourant ou en faisant l'urbanisant. En faisant une clôture, en la préparant. Là, ça devient sa terre, en fait, en islam. Celui qui va la préparer en premier, c'est comme ça que ça devient sa terre. J'ai dit aussi, en islam, on s'approprie une terre qui n'a pas de propriétaire en l'urbanisant. En l'urbanisant ou en la préparant pour l'agriculture. Donc s'il arrive dans la campagne, une terre n'appartient à personne, ben, il la laboure et puis ça devient sa terre. En fait, il y a, dans l'islam, il y a la sagesse, il y a la justice, l'équité, qui fait les gens, ben, ils ont un accès à ces richesses facilement. De même, bien sûr, il faut quand on a parlé de la location, il faut un profil permis et précis. Donc ce n'est pas valable de dire ben tu me donnes de l'argent tous les mois et si t'arrives un problème ben je vais t'aider. Ça n'était pas valable comme ce qu'on voit dans les assurances par exemple. Islamiquement, ce n'est pas valable. L'autre, il a un profit, un des contractants, il a un profit confirmé et l'autre, il a pas un profit confirmé. Donc c'est en fait c'est une arnaque en fait selon les règles de l'islam. Voilà. L'autre, il a bah il s'enrichit clairement et puis l'autre si au cas où il t'arrive ceci, ben t'auras. Donc ça, ce n'est pas valable parce que le profit de l'un, il n'est pas précis, il n'est pas confirmé. Voilà, lui, ben il s'enrichit, puis l'autre en face, il se peut qu'il paye 10 000, il reçoit rien. Ça arrive souvent. Maintenant, bien sûr, en islam, si on t'impose, toi t'as pas de péché. Le péché islamiquement sur celui qui est imposé, mais si on t'impose des choses comme du toit payé et toi tu t'as pas de péché si dans plusieurs pays tu peux pas avoir une voiture, un appartement, il faut nécessairement payer une assurance. Donc toi t'as pas de péché parce que t'as besoin, comme si t'as besoin pour ramener ta marchandise dans tel pays, il te demande telle somme par exemple. Toi, si tu payes, t'as pas de péché. Le péché est celui qui t'a imposé. Comme par exemple, ça arrive, hein, il t'arrête et tout. Hein, ça arrive dans plusieurs pays. Il te demande de l'argent, sinon il te font des problèmes. Si tu payes, t'as pas de péché. Voilà. Parce que des gens ils disent non, moi je te paye pas parce que arrash, ils disent arrash ou al-murtashi en arabe, mais c'est le péché. Voilà. Le péché, quand c'est pour les deux, c'est quand l'autre il impose et l'autre il demande pour quelque chose qu'il n'y a pas droit. Comme il dit au juge, tiens, je te paye pour que tu juges la terre pour moi. C'est là que t'es dans le péché, parce que tu demandes quelque chose auquel tu n'as pas droit, tu demandes le faux. C'est dans ce cas-là où t'es dans le péché. Mais si toi tu veux passer ta marchandise, ça t'appartient, ou tu veux qu'il te fait un bon jugement qui est correct, qui te juge en ta faveur, ce qui t'appartient, là t'as pas de péché, c'est lui qui a le péché, parce qu'il t'impose l'argent pour t'autoriser quelque chose qui t'appartient. Donc et dans la religion, en fait, c'est pour ça, c'est l'islam, c'est adapté à la gestion même de pays, parce que l'islam, c'est ça ramène la justice. Et l'islam, ça pousse à être actif. Dans le hadith très connu, qui est cité même dans les Riyad Salihin, où le prophète il dit que l'un de vous va ramasser du bois, il va le vendre, c'est mieux que de mendier les gens. Donc les musulmans, ils allaient aux places de marché, et celui qui vient le premier, il prend sa place, le second, il vient à côté, il gêne pas le premier, et il paye personne, en fait. Ce qui fait, il peut vous travailler quand il voulait. Donc c'était accessible, en fait, même le travail, le logement, c'était tout ça, c'était accessible, en fait. Donc ils payaient pas, il y avait pas un frein, on voit dans les pays, y compris, tu vois, à la Mecque, moi j'étais plusieurs fois au Hajj, tu vois, les pauvres ils veulent vendre, puis la police qui les court après, et des fois tu cours après le vendeur pour le régler, t'as pas encore payé, la police il est venu, il s'est enfui, le pauvre. Alors que dans l'islam, c'est permis. Donc l'islam encourage à être actif, et eux ils encouragent à être paresseux, et puis la pauvreté ça pousse les gens à voler ou des choses comme ça, à faire des choses pas bien. Bon, c'est pas une excuse, mais si on les laissait travailler comme l'islam l'autorise, bah t'imagines, les gens ils peuvent s'enrichir dans le licite facilement, ils seraient actifs, ils produisent des services, et d'ailleurs produisent des biens. Et d'ailleurs, parmi les sagesses, que Dieu a interdit le gain usuraire, pourquoi? Parce que ça pousse à la paresse. On voit bien que les grands groupes banquiers, assurances, tellement ils ont de l'argent qu'ils financent des guerres, etc. Et donc, ça pousse à la paresse. Alors, ils produisent rien, ils profitent du besoin des gens. Alors que dans l'islam, c'est pour ça que c'est parmi les sagesses que le gain usuraire, c'est le quatrième plus grand péché quand même. Donc, il y a une sagesse en cela. Donc, la vente, c'était permis chez tous les prophètes, bien sûr. Vendre le prix que tu veux, ça t'appartient, tu peux le vendre le prix que tu veux, comme on l'a dit. Donc voilà les détails importants. Walhamdulillahi Rabbil Alameen. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad. Donc, bien sûr, comme on l'a dit, on ne dit pas quelqu'un qui vend, surtout celui qui vend à prix courant, on ne dit pas que c'est haram, c'est un démenti de la religion d'interdire la vente. Donc, s'ils vont très cher, bon, selon la majorité des savants, c'est permis. Certains savants, selon l'imam Ahmed, il interdit la vente excessivement chère sans informer l'acheteur. Mais que l'acheteur soit courant, c'est autorisé chez tous les savants dans ce cas. Dire moi je vends très cher, et là c'est autorisé chez tous les savants. Mais la plupart des savants autorisent un prix très cher, même sans informer. Bon, ce qui est interdit, c'est d'arnaquer ou de faire croire que c'est le prix du marché. Maintenant, vendre un prix courant, vendre un prix abordable, c'est le mieux, comme on l'a dit au début. En tout cas, on ne dit pas c'est de l'arnaque et tout, du monde qui vend, surtout quand il vend un prix courant. Parce que ça revient à démentir la religion, et démentir la religion, ça annule l'islam de la personne. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد